croisée. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour. Souvenez-vous, lors du premier numéro de Croisée, je vous avais annoncé des chanteurs, certes, mais aussi des chefs d'orchestre, des metteurs en scène, des directeurs de théâtre et de festival. Alors pour ce cinquième numéro, il était temps, après une contralto, un contre-ténor, un baryton, une soprano et non des moindres, de mettre à l'honneur une baguette. Alors un chef amoureux des voix, et plus particulièrement de celles qui restent encore à découvrir, à façonner, à épanouir. Permettez-moi de vous présenter l'homme orchestre qui, sans la moindre subvention, porte sur ses épaules une troupe atelier lyrique d'utilité publique, David Stern.
Bonjour, merci
d'être avec nous. Alors David Stern, on peut dire que vous êtes le plus français des chefs américains, puisque juste après votre formation classique, institutionnelle, prestigieuse même, puisque vous êtes diplômé de l'université de Yale et de la Juilliard School, vous franchissez l'Atlantique et en 1990, Stéphane Lissner vous nomme assistant pour la saison lyrique du Châtelet. Et là, vous avez l'occasion de côtoyer, entre autres géants, Christophe von Donani, Pierre Boulez, Jeffrey Tate. Mais c'est peut-être John Eliot Gardiner qui laisse l'empreinte la plus profonde sur vous, puisqu'il va vous initier, vous révéler les secrets de l'interprétation sur instruments d'époque. En 1998, Stéphane Lissner, toujours lui, commence une nouvelle aventure au Festival d'Aix-en-Provence, qu'il a la lourde tâche de ressusciter, tout simplement. Et il vous emmène avec lui. Et il vous nomme directeur musical de l'Académie européenne de musique. Et c'est là, peut-être, que se forge votre goût de la pédagogie, avec les jeunes chanteurs notamment. Vous entamez aussi, à Aix-en-Provence, votre collaboration avec Yoshi Oida, qui vous accompagne toujours, puisqu'il vient de signer la production de Don Giovanni, que vous avez dirigé avec votre ensemble. Après cette aventure à Aix-en-Provence, on vous retrouve chef invité, premier chef invité de l'Opéra de Rouen, et puis aussi associé au Concerto Köln pour ses programmes de musique romantique. L'étape suivante, et si j'ose dire inévitable, c'est la création en 2003, avec la complicité du violiste Jay Bernfeld, d'un ensemble dont le nom résonne vraiment comme un manifeste. C'est Opéra Fuoco, qui réalise la fusion entre vos passions pour le théâtre, la voix et l'interprétation sur instruments d'époque. Alors, est-ce l'expérience de la Finta Giardiniera à Royaumont en 2006 qui ranime votre fibre pédagogique? Toujours est-il que vous faites le pari, aussi courageux qu'ambitieux, de battre les institutions sur leur propre terrain en associant à votre orchestre une troupe atelier pour guider les premiers pas de jeunes chanteurs sur la scène lyrique. Et à en croire l'intérêt que vous porte la chaîne de télévision européenne Arte, qui vient de filmer cette production de Don Giovanni dont je parlais tout à l'heure, le pari semble en passe d'être réussi, du moins je l'espère. David Stern, à 45 ans, vous appartenez encore à la catégorie des jeunes chefs d'orchestre. Mais c'est l'âge aussi où l'on commence à se voir proposer des responsabilités de plus en plus lourdes et exposées. Vous êtes depuis l'année dernière directeur musical de l'Opéra de Saint-Gall en Suisse et directeur artistique de l'Opéra d'Israël à Tel Aviv. Cette dernière fonction, votre père aurait certainement été très fier de vous l'avoir endossée, lui qui à Jérusalem, en pleine attaque de missiles durant la guerre du Golfe, brava les sirènes avec la partita en ré mineur pour violon seul de Bach devant un parterre de masques à gaz. Votre père, Isaac Stern. Alors, dans un monde musical souvent méfiant à l'égard des fils d'eux, est-ce que vous avez dû lutter pour vous faire un prénom? Est-ce que votre père vous a encouragé, défendu? Et quelle a été pour vous la voie de l'émancipation?
Une lourde question. On commence avec une vraie question. Oui, c'était très, très, très lourd à porter à ce nom de famille. Créer un prénom en France, c'était différent pour moi que la tâche pour mon frère qui est toujours aux États-Unis. Puisque ici, mon père était un homme de culture énorme. Il représentait tout des États-Unis. Mais j'ai vite trouvé, et c'était le hasard, c'est simplement que ma passion m'a emmené vers des instruments anciens et l'opéra, deux domaines où mon père avait vraiment rien à faire. Et je peux vous dire que, en arrivant au Châtelet, quand j'ai commencé en 90, de pouvoir travailler dans ce théâtre pendant des mois, lorsque personne ne savait que mon père était qui il était, pour moi, c'était une libération énorme. Et j'ai pu vraiment commencer à trouver ma voix, à ma voix X, éventuellement pour trouver ma voix E. Et c'était long. Il m'a toujours soutenu, mais c'était un soutien dont j'avais un peu peur, parce que le plus qu'il voulait faire des concerts avec moi et mon frère, il voulait que nous aider en appelant des gens. On a toujours dit, s'il te plaît, non, il faut qu'on crée ça à nos propres titres, et le plus que tu nous aides, le plus que ça devient un problème pour nous, jusqu'au point là qu'il sentait qu'on le rejetait. Et alors, c'était qu'au moment que je commençais vraiment à trouver une façon de diriger et faire des concerts avec un plaisir que j'ai bien apprécié. Je l'ai appelé un jour en sortant d'un concert à Rouen, et je lui ai dit, écoute, c'est bête, maintenant faisons un concert ensemble. Je crois que j'ai trouvé l'âge. Et donc, je l'ai appelé. Il m'a dit, écoute, il faut que tu décides très vite, parce que ton frère vient de me demander la même question il y a quelques jours, et j'avais pas parlé à mon frère. Alors on a décidé pour la saison prochaine de faire un concert, moi en novembre et lui en décembre, et mon père est décédé en septembre. Mais il est décédé en sachant qu'on lui a demandé, et je crois que c'était autant plus dur pour nous de lui demander que c'était un plaisir pour lui d'entendre qu'on lui a demandé. Et je reste avec la mélancolie que j'avais jamais fait ce concert, mais c'était quand même un moment où je suis arrivé à être ma propre personne.
Et c'est lui qui vous a entraîné vers la musique, ou vous y êtes venu?
Oui, mais pas directement. C'est-à-dire que nous étions des satellites à la maison. On était invités à bien admirer papa, d'aller voir, écouter les concerts, lui suivre dans les tournées pendant l'été quand on n'en avait pas à l'école. Mais c'était surtout écouter, ne pas parler. Et on jouait tous des instruments, mais comme mon père et ma mère avaient tellement peur de la pression que ça pourrait nous faire, il nous a toujours, et il a toujours évité de travailler avec nous. C'est-à-dire, il n'a jamais participé quand je travaillais mon piano, on faisait jamais de la musique à la maison. Et pour lui, c'était une façon de dire, je ne veux pas vous faire de la pression. Pour nous, c'était très dur parce que c'était une forme de réjection. Pour un petit enfant, c'est dur. Et c'était psychologiquement pas facile. Et c'était que quand j'étais ado que j'ai dit à mon père, arrêtons avec ça, jouons quelque chose ensemble. Et on a même fait un concert de trio avec son violoncelliste Leonard Rose, qui faisait partie de son trio. Et on a joué, j'avais oublié, le trio de Mozart qu'on avait fait ensemble, que j'étais emporté par lui. C'était un de ces rares musiciens qui avait tellement d'auteur et tellement de fougue dans sa façon de jouer et être, qu'on se sentait emmené avec lui sur ses bras. Et il avait des bras énormes. Et c'était un moment privilégié pour moi, personnellement, musicalement et tout. Je vais jamais oublier le sentiment de jouer pendant ce concert. J'ai fait des choses que je pourrais pas faire aujourd'hui, que j'ai pas pu faire 2 minutes avant ce concert.
Et qu'est-ce qui vous a amené à la direction d'orchestre ?
La direction, c'est venu parce que j'étais étudiant au Festival d'Aspen dans le Colorado. C'est là où il y avait une bonne partie des étudiants de Juilliard qui vont tous les étés. Je faisais mon piano. Et puis un jour, j'écoutais un ami qui jouait dans un masterclass. Et elle jouait un concerto de Mozart. Et je me suis dit, mais si simplement elle aurait regardé la partition, elle comprendrait quelque chose plus sur l'œuvre. Alors, j'avais la partition avec moi. Je regardais et je continuais à travailler cette partition dans ma tête et en regardant. Et j'ai tombé amoureux des partitions. Et c'est ça. C'était surtout le côté presque musicologique qui m'a fait rêver d'être chef d'orchestre. C'est le regarder les partitions, étudier, comprendre pourquoi ou comment est-ce qu'on peut communiquer une structure. Et vite, j'ai trouvé que ça, c'était là où j'étais plus heureux.
Alors, on vous écoute maintenant au pupitre. Dans un enregistrement de la symphonie Réformation de Mendelssohn, à la tête de l'orchestre de chambre de Bâle. Alors, nous écoutons le troisième mouvement et il y a...
Cette petite partie, oui. Alors, en fait, déjà, cette symphonie, bon, c'est pas la symphonie la plus connue de Mendelssohn. Même à l'époque de Mendelssohn, ça a été pas très souvent joué. Et je crois que c'est parce que la fin est très calme et sage et il n'y a pas ce final énorme peut-être qu'on attend qu'on a entendu avec l'italienne. Il y a des problèmes dans cette œuvre, mais moi je trouve que c'est vraiment un coup de génie. Et surtout au troisième mouvement, bon, on sait que la Réformation a été écrite pour fêter les 300 ans depuis que Luther avait déposé sa lettre. Ce troisième mouvement, et j'ai aucune preuve, il n'y a pas de lettre, il n'y a rien, je peux simplement le dire parce que ça me touche chaque fois que je le dirige, cette musique est purement juive. C'est une musique qui est une petite mélodie avec toutes les nuances et des couleurs qui viennent d'une tradition juive. Et ça devient l'introduction pour le dernier mouvement qui est protestant, protestant, plus protestant n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut pas oublier, en contexte, de regarder les plus grands compositeurs juifs. Si on pense tout de suite à Mahler, à Mendelssohn, et il ne faut pas oublier Bernstein. Alors Mahler, bon, Mendelssohn a écrit sa réformation, Mahler a écrit sa résurrection, et Bernstein a écrit sa messe. Alors qu'est-ce que ça veut dire, tous ces juifs qui écrivent des œuvres chrétiennes ? À mon avis, c'est parce qu'il y a ce désir extrêmement fort. Nous avons tous, musiciens, chrétiens, juifs, musulmans, qui jouent la musique classique, on a tout fait de la musique d'église. Ça fait partie de notre patrimoine musical. Ça appartient à tout le monde. Bach, ça appartient à tout le monde, c'est pas que aux protestants. Alors, ça devient pour nous l'apothéose de la musique. Et il y a ce désir à travers ces trois compositeurs, de réunir quelque chose. Alors on a, c'est ce qui est tellement beau, c'est pas pour dire c'est une musique juive, c'est pour dire que cette introduction juive va parfaitement bien avec ce dernier mouvement tout à fait protestant. Et ça devient un concept et c'est lié par la musique pure. Et ça, je trouve tellement beau chaque fois que je le dirige, je suis très touché. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est entre ce troisième et quatrième mouvement. Dernièrement, Christopher Hogwood a fait un travail sur la partition et a découvert une version que Mendelssohn avait rejetée. C'est la première version de cette symphonie où il y a inclus une partie récitative pour la flûte juste avant cette dernière, entre cette petite, ce petit mouvement juif et le mouvement protestant où on entend l'hymne. Selon les idées de Hogwood, Mendelssohn a rejeté cette partie parce qu'il ne voulait pas que cette musique sonne comme la 9e de Beethoven avec le récit pour contrebasse. Moi, je trouve pas vraiment, je suis pas complètement convaincu par ça. Je crois que c'est une question de balance qu'il n'a pas inclus, mais c'est un peu dommage. Et alors, on a inclus cette partie pour cet enregistrement qu'on a fait dans un concert live. Et je trouve que c'est vraiment un petit bijou, parce que ça marche très très bien et ça fait le lien entre le mouvement lent et le mouvement dernier, le final, et c'est tout à fait très très beau.
Voilà, on met de la musique sur ces mots maintenant. C'était un extrait de la symphonie Réformation de Mendelssohn que vous venez d'enregistrer, David Stern, avec l'orchestre de chambre de Bâle. Oui. Alors baroqueux, classique, romantique et moderne, lyrique et symphonique, vous êtes tout cela à la fois. Mais cet éclectisme ne manque pas de faire grincer quelques dents, du moins en France, où l'on aime par-dessus tout cloisonner les artistes à coups de « laisser faire ceux qui savent ». Alors la lutte est encore longue.
La lutte, je crois, va toujours continuer. Je crois que tant que je me consacre pas complètement au baroque ou complètement au romantique ou quoi, comme on veut, il y aura toujours quelques-uns qui vont dire mais qu'est-ce qu'il fait Stern, il essaie de faire tout et il est trop gourmand. Et franchement, c'est pas crédible. Écoutez, moi, la musique, c'est quelque chose qui vit en tellement de façons que je pourrais pas me mettre dans un seul répertoire. Il y a des gens qui le font très, très, très bien. Je les admire. Je suis pas capable de le faire comme ça. Tant que j'ai la possibilité de continuer à faire des œuvres avec rare ou connu, mais avec des instruments d'époque, de continuer à faire du romantique et du 20e et voire 21e siècle en Israël et à Saint-Gall et en lyrique et aussi symphonique à Saint-Gall, je suis heureux, je peux pas me plaindre. Et je trouve que c'est mieux pour ma compréhension du baroque de faire du moderne et vice-versa, bien sûr. Cette compréhension de la façon que la musique a été construite au XVIIIe siècle a beaucoup de rapports avec la musique du XXe siècle parce que c'est toujours un regard. Et si on ne comprend pas le regard de l'ancien, c'est très compliqué à comprendre le regard d'aujourd'hui. Et ça me met toujours dans la perspective d'une sens historique de ce qu'on fait, et j'apprécie cette opportunité.
Et quand vous avez travaillé avec Gardiner, ça a été un coup de foudre pour cette pratique-là, ou vous étiez un peu méfiant au début? Comment ça s'est passé, les instruments d'époque pour vous?
C'était un coup de foudre pour le son des instruments d'époque. J'étais vraiment complètement emballé parce que, je connaissais les enregistrements de John Elliott, mais quand je les ai entendus devant moi, j'étais étonné à la façon de parler. Maintenant, John Elliott, nous tous, on vient de nos propres passés. Alors, John Elliott vient d'un passé avec la musique religieuse et chorale. Et parfois, nos concepts, la façon de faire de la musique différaient. Alors, c'est aussi normal, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour la façon que John Elliott a créé des projets. Pour lui, chaque fois qu'il dirigeait un opéra, si c'était Les Noces, c'était comme si la première personne qui dirige les noces. Il avait ça dans sa tête. C'est une certaine orgueil. Mais c'est quel bel orgueil. Parce que franchement, qui veut écouter quelqu'un qui vient en se disant « c'est les unième représentation des Noces de Figaro ». On veut entendre quelqu'un qui est tellement sûr de lui-même qu'il va le faire comme si c'est pour la première fois. Et John Elliott, il a toujours cette énergie et ce rapport avec chaque projet qu'il fait. Et c'est jamais routiné. C'est ça la leçon, la plus grande leçon que je garde avec moi. Mais avec les instruments anciens, depuis le début, oui, j'étais emballé. Il faut que je dise aussi que ma femme était membre de Musikantico Köln avec Reinhard Goebel. Et surtout à l'époque où Reinhard jouait encore. Et c'était tellement un plaisir d'écouter ça, de passer du temps avec Reinhard. J'ai beaucoup appris de lui aussi.
Et les instruments d'époque gagnent de plus en plus de terrain. Ils jouent maintenant la musique romantique, voire post-romantique. Qu'est-ce qu'apportent ces sonorités dans cette musique-là?
Bon, déjà, il faut savoir que penser. Quand on dit que, ah oui, mais si Mozart aurait connu les instruments de notre époque, il aurait été ravi. Mais bon, peut-être, mais peut-être pas. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas écrit pour les instruments de cette époque. Alors, on comprend beaucoup plus l'écriture du musicien, du compositeur, quand on est limité, soi-disant, simplement que très souvent, ces limitations deviennent des atouts. Parce que, en ne pas pouvoir faire un grand son énorme, il faut trouver une façon de raisonner plutôt de pousser le son. Et il faut aussi trouver le rapport naturel avec le côté rhétorique de l'œuvre. Et je ne parle pas que de l'opéra, parce que bien sûr, le côté opéra, quand on accompagne un opéra, on peut accompagner le sens du texte beaucoup plus facilement avec les instruments d'époque. Mais même pour une symphonie, il y a quelque chose qui est une narration. Et cette narration peut être accompagnée plus facilement, plus directement avec les instruments d'époque. Alors, on retrouve quelque chose dans l'écriture. Est-ce que c'est original ? Est-ce que la question se pose ? Ce n'est pas vraiment ça l'intérêt, que ça soit original. Simplement qu'il y a quelque chose, il y a une énergie et un besoin qui sort de ces instruments et de ces instrumentistes qu'on ne retrouve pas souvent avec des orchestres modernes.
Alors, des instruments anciens, une partition romantique, Concerto Köln, que vous dirigez, joue le concerto pour violoncelle de Schumann avec Jean-Guyenne Queyras. C'est le deuxième mouvement. C'était le deuxième mouvement du concerto pour violoncelle de Schumann par Concerto Köln et Jean-Guyen Queyras.
Dans un concert live, j'aimerais ajouter.
Alors en 2003, vous franchissez un cap en créant Opéra Fuoco avec votre complice, le violiste Jay Bernfeld, qui est aussi un chef de chant apprécié et reconnu. Alors c'est un ensemble jouant sur instruments d'époque, ce qui ne veut pas dire baroque, je crois qu'il est utile de le préciser parce que la confusion est encore très répandue. Avec cet ensemble, il ne s'agit pas de vous poser en archéologue, en intégriste de l'authenticité, mais plutôt de partir à la recherche du sens des mots et de leur lien profond avec la musique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en s'institutionnalisant, la pratique sur instrument d'époque s'est normalisée, voire essoufflée aujourd'hui?
Bien sûr, chaque tendance qui dure après un moment devient un peu poussiérée. Et je crois que c'est un peu le cas très souvent aujourd'hui avec les instruments anciens. On a, comme on avait dans les années 50, les façons de faire du Mozart. Aujourd'hui, on a les façons de faire du Mozart aujourd'hui avec des instruments anciens qui devient codifié. C'est très souvent, ça rentre dans une norme qui est acceptable parce que les quelques oreilles au public disent que ça, c'est la façon qu'il faut le faire, mais ça manque d'invention et manque de créativité. Je crois que ce qui reste encore jeune et vif dans le monde des instruments anciens, c'est effectivement l'accompagnement des voix et dans l'opéra, parce que à chaque fois qu'on fait une recherche à travers le texte de l'opéra, c'est un rapport direct avec la façon qu'on joue. Et les instruments anciens, les instrumentistes qui font ces instruments, qui sont dans ces ensembles, ont la tendance d'écouter tellement bien, de changer leur façon de jouer simplement parce que ça va avec le contexte et le texte du moment, ou le sous-texte, parce que parfois c'est vraiment contre ce que le chanteur dit. Parce qu'il y a des moments en Handel ou en Mozart où on se moque. L'air de Mazzetto dans Don Giovanni, l'orchestre se moque de Mazzetto. Si on va exactement avec son texte, c'est un peu dommage, mais, parce qu'il est fâché. Mais la musique est presque, pas ringard, mais c'est juvénile. Et la musique se moque de lui. Alors, il faut trouver cette façon de le jouer. C'est presque un contrapunctus conceptuel entre l'orchestre et Mazzetto. Tous ces aspects-là font, je crois, font continuer à garder la fraîcheur de ce mouvement. Et il y a plein de bons chefs d'orchestre aujourd'hui dans la scène baroque, scène ancienne en France et à l'étranger qui font vraiment du très très beau travail. Et je crois que c'est surtout à travers cette étape avec le texte que ça va continuer. Parce que oui, c'est vrai que côté simplement instrumental, on est devenu un peu rodé. Ça, c'est un peu dommage.
Mais ça, j'imagine que ça implique un très long travail de préparation, notamment avec les chanteurs, de s'accrocher comme ça au texte.
On ne peut pas le faire à version allemande où on joue aujourd'hui Puccini et demain Mozart et tout soit mis en service en 2 minutes. Non, c'est un long travail où le chanteur lui-même a la capacité, le temps de réfléchir, de se dire « Mais pourquoi je dis ce mot? Pourquoi est-ce que je chante cette phrase que j'ai chantée pendant 10 ans? J'ai jamais pensé pourquoi je l'ai dit. » Alors, il faut toujours penser. Et c'est peut-être la plus grande leçon que je garde de mon père. Il a toujours dit sur scène « Faut pas arrêter à penser. » Et on dit que, bien sûr, c'est évident, on rentre sur scène, on pense, mais de réfléchir, de vraiment garder ce côté un peu objectif, à s'observer sur scène. Si on a réussi de communiquer avec le public, jouer les notes déjà, oui, faire du travail avec des autres musiciens, et au même temps garder un côté une petite distance entre soi-même et la musique, à ce moment-là, il y a quelque chose d'énorme qui peut se passer. Et je crois que c'est important pour le chanteur de pouvoir faire ça, même malgré les costumes et la mise en scène. Et il y a quelques-uns de nos jeunes dans la troupe qui le font. Quelques-uns, il faut que je le dise. Tous les... Parce que c'est ça où on insiste sur ça avec les... Fuoco, quand Jay et moi, on fait notre travail avec les jeunes, on leur demande pourquoi est-ce qu'on chante ça? Qu'est-ce que tu veux dire avec cette air? Pourquoi tu changes d'harmonie ici? Alors ils disent, parce que c'est le compositeur qui le fait. Mais je dis, mais bon, c'est bête. Ce n'est pas une réponse. La réponse, c'est pourquoi est-ce que le compositeur le fait? Qu'est-ce que ça veut dire avec ton personnage? Et on les laisse le temps de réfléchir. Alors, on ajoute nos idées de temps en temps, ou peut-être souvent, mais on les laisse aussi à venir nous voir. Et le meilleur travail qu'on fait avec nos jeunes, c'est quand les jeunes viennent eux-mêmes avec leurs propres idées, et ça fait l'échange. Et je suis très fier quand un chanteur arrive et dit « Mais j'ai pensé à ça et ça et ça, je veux le faire comme ça. » Bon, peut-être je ne serai pas d'accord, peut-être ça va revenir à ça ou peut-être pas, mais simplement l'idée de discuter comme ça, ça me rend heureux.
Alors dans la foulée de la naissance de votre ensemble, vous enregistrez C'est mêlé de Handel, une gravure qui apparaît vraiment comme un manifeste fondateur et qui de ce fait a provoqué des réactions contrastées, mais qui heureusement n'a pas laissé indifférent.
Ça, c'est sûr.
Alors, vous en avez confié le rôle-titre à une jeune chanteuse de 23 ans, qui n'allait pas tarder à devenir une star, ouais. Danielle Denise. Et elle y est entourée d'interprètes chevronnés, Paul Agnew, qui endosse les attributs de Jupiter adultère, et Guillemette Laurence, qui ourdit la vengeance de la jalouse Junon. Nous écoutons justement l'air « Hands, Iris, Hands Away », précédé de son furieux récitatif accompagné « No more, I'll hear no more ».
A speedy flight we'll take. with noise and light, with noise and light, I will be faithfulness. Thou shalt sink again to bleeding rest. Till to my heart the grand supplies and tears with thee. The
C'était Guillemette Laurence en Junon et Susan Miller en Iris dans un extrait de Sémélé de Handel, un enregistrement paru chez Arion Pierre Verani. Alors coupé, arrangé en fonction des chanteurs que les compositeurs avaient sous la main, c'était des pratiques courantes à l'époque baroque. Est-ce que l'interprète d'aujourd'hui peut, est-ce qu'il doit se les approprier et dans quelle mesure ?
Dans quelle mesure ? La mesure, c'est que il faut être prêt à raconter une histoire. Il faut raconter le texte. Maintenant, il y a des textes qui ont été écrits pour un certain public, pour une certaine période. Et il y a, parmi les plus grandes œuvres de Handel, des moments qui ont été écrits pour que le public ait le moment pour s'échapper de l'histoire, pour même quitter la salle et faire ce qu'il voulait en coulisses et revenir pour les moments les plus importants. Nous ne sommes pas un public du XVIIIe siècle. Et je trouve avec quelques œuvres, et pas toutes les œuvres, mais quelques œuvres dans le baroque, il faut prendre en contexte pour qui on fait cette musique. Je sais que c'était assez osé, surtout pour un disque, de faire des coupures pour Sémélé. Mais comme c'était notre premier disque et ça a été même enregistré avec une fougue, avec une énergie, je voulais présenter quelque chose que je serais fier de présenter dans une salle de concert. Pas une quasi-totalité, une intégralité, alors qu'il y aurait des œuvres, des numéros qu'on n'aurait pas travaillé dans la version concert, mais on l'a fait en version discographique, qui seront moins travaillées, moins pensées et qui ne feront pas partie de l'histoire qu'on raconte. Mais ça veut dire simplement que ça devient intégral parce que c'est sur un disque. Je n'ai pas trouvé que c'était logique ou honnête de ma part de le faire. Et effectivement, j'ai pris des choix et j'ai même mis les choix dans mes mains en écrivant un petit paragraphe dans le disque en expliquant pourquoi j'avais fait ces coupures. Tandis que si je n'avais pas écrit, peut-être les gens n'auraient même pas su qu'il y avait tellement de coupures. Mais ça a causé une grande polémique. Quel est le rôle ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'il ose ? Il y avait une critique qui a dit même que c'est comme s'il ferait des coupures dans Molière ou Racine. Mais je suis désolé, mais tu sais, au théâtre à Paris, on coupe Molière et Racine aussi. Nous sommes des interprètes. Interprète, c'est exactement ça. Alors, est-ce qu'on a le droit? Ce n'est pas une question de droit. Est-ce qu'on a la responsabilité d'être honnête? Oui. Ça, c'est ça où je trouve le plus important. Alors, si je trouverais que, honnêtement, j'ai un impulse pour faire chaque note de cette œuvre, je le ferai. Mais si je dis que je vais faire le pari et je vais vous présenter quelque chose qui marche dans une totalité, mais qui évite certains, à mon avis, pièges, je prends cette chance parce que ça fait partie de mon interprétation. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités d'écouter plein de musique, il faut vraiment dire quelque chose à chaque moment. De faire un mouvement simplement parce que c'est écrit, mais qui n'a rien à faire avec l'histoire et qui coupe de le drame central de l'œuvre, je trouve dur à comprendre aujourd'hui. Ceci dit, avec AGFT qu'on a enregistré après, j'ai fait beaucoup, beaucoup moins de coupures, simplement parce que je trouvais que c'était pas nécessaire. C'était écrit avec une certaine concentration d'idées et c'était simplement pas nécessaire pour raconter l'histoire comme moi je l'entendais. Est-ce que c'est osé et orgueilleux? Oui, mais est-ce que c'est pas osé et orgueilleux d'être sur scène, de se mettre sur scène? Nous sommes des musiciens, c'est comme ça.
Alors GFT, justement, que vous avez enregistré en 2005 et qui est paru l'année dernière, vous le reprenez en concert cette année à l'occasion de l'anniversaire du 250e anniversaire de la mort de Handel. Alors en quoi cet ultime oratorio de son compositeur, il y survit 7 ans, mais d'une certaine manière réduit au silence par cette cécité qui l'avait menacé jusque pendant la composition de GFT, en quoi cet oratorio marque une sorte de point de non-retour dans l'évolution du drame sacré, auquel d'ailleurs Handel avait lui-même donné naissance avec Esther, et aussi dans quelle mesure est-ce qu'il annonce la réforme de l'opéra seria qui a été menée par Gluck et quelques autres?
Un peu plus tard.
Un peu plus tard, mais 10 ans plus tard, à peine.
Oui, quand on regarde les dates, on oublie que ce n'était pas aussi longtemps que ça. Le terme drame sacré montrait comment, à mon avis, Handel était frustré par le genre qu'il lui a même créé. C'est lui qui voulait continuer à écrire des opéras italiens à Londres, et c'est simplement le goût du public qui lui a forcé de se réinventer et devenir le pape de l'oratoire en Angleterre et dans la langue en anglais et sur des sujets bibliques plutôt de continuer avec des thèmes comme César et Ariodante. Il ne faut pas oublier l'importance. Ce qui est beau avec Handel, c'est pas que sa réforme venait d'un concept intellectuel. Il faut que l'opéra fasse ça. C'était lui-même qui parlait. C'était un vrai dramatiste. Il avait vraiment le talent de mêler l'anglais, surtout l'anglais et la musique d'une façon qu'on personne après. Bon, on sait, il y a Purcell, il y a Handel, et après il y a Britten. Mais son rôle était tellement important, il ne voulait pas être cloisonné ou étriqué par le goût de son époque. Il voulait absolument continuer à écrire, et c'est vrai, de cette manière. Et s'il n'avait pas le problème de vue, de santé à cette époque-là pour pouvoir voir assez pour continuer à écrire, qu'est-ce qu'il aurait pu écrire, parce qu'il n'était pas mort, il était loin de mourir. Et c'est vraiment dommage pour nous que cette perte de vue lui a empêché de continuer. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette œuvre? Il y a GFT qui demande... l'orgueil de GFT au début, c'était d'offrir à Dieu... de sacrifier la première personne qu'il va voir s'il gagne en victoire en bataille. Et ça, bien sûr, ça tombe que s'il voit sa fille. Alors, quel est l'enjeu après? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il va faire? Ou est-ce qu'il va être testé sur sa propre confiance en Dieu? Et c'est là où l'œuvre devient extrêmement intéressante, parce que c'est même Handel lui-même qui se demande: pourquoi, après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, que je commence à ne plus pouvoir voir, que je serai, que mon monde va renfermer sur moi. Est-ce que Dieu me serve? Est-ce que Dieu me lâche à ce moment-là? Est-ce que je peux toujours croire dans le même Dieu? Il y a un côté personnel qui est jamais vu dans le baroque, un côté personnel dans cette œuvre où il sort un Handel qui doute sur tout ce qu'il a cru pendant sa vie. Bon, c'est pas ouvertement comme le ferait un autre compositeur d'une époque du XXe siècle ou XXIe siècle, bien sûr que non. Mais il y a quand même ce côté désespéré de Jephté qui me touche chaque fois que je le fais. Bon, avec Paul Agnew à côté de moi, je peux que être très ému par ce qu'il fait. Mais c'est vrai que cette œuvre représente un summum esthétique ou une force, une énergie, une simplicité aussi qui est très important et qui pour moi représente les plus belles pages de sa carrière.
Alors on écoute justement Paul Agnew dans l'air Waft Her Angels.
Waft. c'est dur parce que bon, le pauvre Handel, comme il n'était pas tellement anglophone, Waft, virgule, Angels, through the skies, parce que Waft Her Angels, ça sonne comme il faut emporter ses anges. Non, emporter là, il parle aux anges, à travers les cieux. Alors, mais c'est dur à dire et c'est très dur à chanter.
On l'écoute.
Oh! je plais. Angels, oft through the skies, oft through the skies, far above yon azure plain, far above yon azure
Nous venons d'entendre Paul Agnew dans un air de Jephté de Handel, accompagné par l'ensemble Opéra Fuoco, placé sous la direction de David Stern, et c'est toujours un disque Pierre Verani. En janvier 2008, vous créez la Troupe Atelier d'Opéra Fuoco, une structure unique en son genre où vous vous proposez d'encadrer de jeunes chanteurs en début de carrière sur une période de 3 ans, en les associant en temps à des projets spécifiques, coproductions internationales de votre ensemble. Alors, de quel constat est née cette aventure ?
Alors déjà, ça commence avec Aix, comme vous l'avez évoqué, que je travaillais avec l'Académie. C'était une occasion pour moi de connaître toute une génération de jeunes chanteurs en France. J'ai travaillé avec eux, mais j'avais le plaisir de continuer à travailler avec plusieurs de ces jeunes chanteurs. Il y a même dans le GFT qu'on va faire bientôt au Théâtre des Champs-Élysées une mezzo formidable qui va chanter Haymore. Et elle était deuxième dame dans la flûte enchantée d'Aix-en-Provence. Et c'est Louise Innes, très très belle voix. Et qu'est-ce qui vient de tout ça? C'est le constat que l'opéra peut être toujours renouvelé. Que le moment qu'on arrive dans une pièce et on dit « mais j'ai toujours chanté ces rôles comme ça », on a du mal à sortir. Et quand on trouve une jeune chanteuse ou un jeune chanteur qui est plein d'ouverture et excitation, ça nous rend plus honnêtes comme musiciens. Alors j'ai un plaisir particulier à travailler avec ces jeunes. Peut-être, c'est quelqu'un me l'a dit il n'y a pas très longtemps, que je fais exactement ce que John Elliott faisait à l'époque où moi je suis venu à Paris. Il faisait ses Mozart avec des jeunes chanteurs. Bryn Terfel, c'était notre Figaro, il était à peine connu à l'époque. Bon, on ne peut pas dire ça pour aujourd'hui. Mais il faisait cette démarche aussi de son côté passionné pour travailler avec, pour faire trouver quelque chose, une complicité entre chef et chanteur. Et j'avoue que je crois que j'étais bien inspiré par ça. Mais c'est ce plaisir, bien que j'adore travailler avec Paul, avec Guimet, avec Lisa Larson, c'est d'autant un plaisir de travailler avec Chantal Santon ou de travailler avec des jeunes. Je ne vais pas commencer à nommer tout le monde parce qu'il y a tellement, mais je ne peux pas me cacher derrière une partition avec ces jeunes-là. Si je dis ce tempo, ils vont me dire « mais pourquoi ce tempo ?» Je ne comprends pas, ou pourquoi vous me faites ça, là, là. Et c'est toujours une discussion. Et bien, à la fin de la journée, c'est nous les interprètes qui gagnent de cette discussion. Et ça me reste musicalement, j'espère esthétiquement, jeune.
Alors, avoir l'idée, c'est bien. La réaliser, j'imagine que c'est beaucoup plus dur.
C'est beaucoup plus dur parce que... Et c'est drôle parce que moi, je sais pas de réinventer la roue ici. Je respecte tout ce que font les conservatoires en France, mais il n'y a plus de système comme il y avait en Allemagne à l'époque des troupes. Il y a toujours des troupes en Allemagne. Mais ça n'existe plus en France. Et ça veut dire que le jeune chanteur sort de l'institution, de l'académie ou l'école de musique, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des petits ensembles, ils feront des cachetons. Le système d'intermittence est génial parce que ça permet à tous ces musiciens à vivre, mais ça ne permet pas à apprendre quelque chose. Alors, ils font à droite et à gauche quelque chose, mais il n'y a pas de sens. Alors, et il n'y a pas de théâtre qui sont prêts à leur donner des grands rôles ou même des petits rôles parce que au fur et à mesure, l'allemand de 24 ans ou 26 ans ou l'anglais aura plus d'expérience. Et le directeur de théâtre, il n'est pas bête, il veut prendre la meilleure personne. Mais pour le français, c'est très dur. Alors, combien de fois j'entends en France des commentaires « Ah oui, mais les Français ne savent pas chanter. Ah, » c'est tellement bête d'entendre ça. Et ça me fatigue. Le problème, c'est simplement qu'il n'y a pas de... Il n'y a simplement pas de système. Et ce sont que les chanteurs qui ont la chance de trouver un peu de travail ailleurs ou les formations ailleurs, qui reviennent et après un moment deviennent Nathalie Dessé et d'autres. Je ne sais pas de complètement changer ou sauver, je ne sais pas sauver quoi que ce soit. Je suis musicien, j'ai la chance de faire des concerts, j'ai aussi une responsabilité d'aider des jeunes autour de moi le plus que possible. Et c'est ce que j'essaie de faire, je ne peux pas... aider tout le monde ou changer trop le système. Mais demain, avec mon petit ensemble, avec notre petit bureau, avec minuscule de structure, je vais continuer à lutter parce que je trouve que c'est important. Et j'espère que je serai copié par des autres parce que je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine, que chaque musicien qui a la chance de faire de la musique peut partager quelque chose avec des jeunes.
Alors, au moment où vous créez cette structure, vous êtes aussi nommé directeur musical de l'Opéra de Saint-Gall en Suisse, une maison finalement qu'on connaît peu, qui est préservée du feu médiatique. Ça a sans doute autant d'avantages que d'inconvénients, cette...
C'est vraiment connu en Allemagne et en Suisse, parce que c'est sur la frontière allemande. Mais c'est connu comme une maison où on fait venir soit des jeunes qui vont avoir des grandes carrières, soit des grands qui viennent pour faire des rôles, des prises de rôle. C'est un petit laboratoire, mais c'est adorable, c'est vraiment très très beau là-bas. L'équipe est géniale, l'orchestre joue très très bien. Alors il y a une volonté de faire quelque chose, j'ai un très bon intendant maintenant. On va commencer la saison prochaine avec Medea de Simon de Meyer, qui est complètement inconnu, qui serait pas joué à droite et à gauche nulle part. Et je suis très ravi de faire ce compositeur qui fut le professeur de Donizetti, qui était en allemand, mais qui était connu comme le père de Belcanto en Italie. Et alors on trouve une passion de faire une possibilité de faire des choses bien et correct et aussi intéressante là-bas. Mais depuis, quand j'étais nommé à l'Opéra d'Israël à Tel Aviv, alors là, c'est une très grande maison, c'est international, on parle beaucoup plus de ce qui se passe là-bas. C'est la folie, c'est la passion, c'est pas facile. Bon, il y a toujours des problèmes qu'on trouve dans les grandes maisons, que ça soit la seule maison en Israël veut dire qu'il y a un certain rôle que ça joue. Mais là, c'est très sous les lumières, c'est très observé, c'est très passionnant, c'est la fougue chaque fois que je rentre dans la maison, mais le contraste entre les deux maisons me plaît beaucoup.
Alors, j'imagine que tout de même, outre le haut niveau artistique de cette institution, l'Opéra d'Israël, et puis toutes les contraintes d'une grande maison, accepter cette fonction revêt aussi pour vous une valeur symbolique, sentimentale, philosophique, voire politique peut-être.
Écoutez, on ne peut pas aller en Israël avec trop de naïveté ou trop innocemment. J'ai toujours aimé y aller. C'est un pays magnifique. Est-ce qu'il y a des problèmes dans le pays ? Évidemment. Est-ce que j'accepte que le pays existe et devrait exister ? Oui. Et c'est quelque chose qui est tout très souvent pas très accepté par des personnes. Mais je crois beaucoup en ce que ce pays a, d'où ce pays est venu, comment ça a été créé et qu'est-ce que ça représente. Côté culture, c'est un pays qui a besoin, qui a soif pour la culture. Et c'est tellement important que de jouer un rôle là-bas me touche beaucoup. Bien sûr, mon père faisait beaucoup de son côté surtout avec les jeunes générations de violonistes qui sont sortis quand il est travaillé, surtout dans les années 70, 80, 90. Et peut-être d'un côté, oui, je vois un peu la corrélation, que je fais un peu la même chose avec des jeunes chanteurs que lui, il faisait avec des violonistes. Mais c'est parce que moi, j'ai aussi créé mes propres liens avec le pays. Est-ce que je rêve de faire des partenariats entre l'Opéra d'Israël et des pays arabes ou simplement l'Iran ? Ça serait tellement un plaisir. Pour moi, ça serait le vrai rêve de faire quelque chose là-bas qui joue un rôle, et je ne veux pas dire politique, mais surpolitique. Parce que si on parle de politique, on va se trouver dans un
rôle humain.
Un rôle humain qui n'a rien à faire avec la politique. Parce que, mine de rien, nous sommes tous des êtres humains et on pleure et on rit et on veut tous être émus par quelque chose et on a nos passions. Et pour pendant 3 heures d'opéra ou pendant un mois de projet, on peut oublier tout ce qui se passe à droite et à gauche et faire simplement quelque chose conjoint. Est-ce que c'est pas ça la plus belle chose dans la vie ?
Avant de nous quitter, la question rituelle de cette émission, quels ont été vos derniers chocs, vos derniers coups de cœur d'auditeurs et quels sont vos disques de chevet ?
Waouh ! Tu me mets sur dernier coup de cœur. Peut-être c'est pas tellement dernier, mais la première chose qui rentre dans ma tête, c'est Robert Hall, que j'ai entendu en un Winterreise à Moscou quand je dirigeais là-bas, et qui m'a tellement ému et qui a quelque chose de tellement beau dans sa voix. C'est élégant, c'est poétique, que je pleurais pendant... Normalement, on pleure que la fin de Wunderreise. Moi, j'ai pleuré pendant tout l'œuvre. Et je lui ai demandé de venir à Saint-Gall pour faire un 14e de Shostakovich l'année prochaine. Je suis très heureux qu'il va venir. Mais je trouve que ça, c'était un des plus beaux concerts de ma vie. CD, les grands instruments que j'ai
entendus. Ceux qui vous ont beaucoup marqué ou ceux auxquels vous revenez sans arrêt.
Alors, ce que je reviens sans arrêt, il y a un disque de la quintette en do majeur de Schubert, enregistré au Festival de Prague avec Casals. Ou que j'écoute tous les, je sais pas combien de temps, mais je l'écoute régulièrement parce que c'est un moment de revenir à une source. C'est une source qui est tellement généreuse et c'est une source qui nous donne tellement d'espoir. C'est comme ça qu'il faut faire la musique. Je sais que parce que mon père, il faisait partie de ce disque. Mais il faisait partie de ce festival. Et je sais qu'à l'époque, on faisait les concerts vers 20h, 20h30, dans la petite église à Prades, qui est toujours, où il y a toujours le festival. Il y a un resto assez simple en face. Tous les musiciens sortaient, ils mangeaient des huîtres et du bon vin blanc. Vers minuit, 1h du matin, si on avait quelque chose à dire, on est revenu dans l'église et c'est à un moment qu'on a fait ces enregistrements. Ce n'était pas des lives. Bon, c'était des lives. Bien sûr, c'était extrêmement live, mais ce n'était pas des concerts. C'était après les huîtres et le vin blanc. Et on entend ce désir de faire la musique. C'est ça, la musique, c'est parce qu'on veut partager quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a une contrainte de 3 minutes, parce que sinon les syndics vont dire que s'il faut payer tel et tel et tel. Ou on sort un disque parce que c'est bon pour l'été, pour Noël, parce que ça vend bien pour une certaine partie du public. Ce n'est pas du tout ça. C'était parce qu'on aime et on aime partager. Et quand on entend un disque qui nous fait rêver comme ça, on comprend pourquoi nous sommes toujours des musiciens.
David Stern, merci d'avoir été avec nous et de vous être livré au micro de Guillaume Robert. Nous nous quittons sur un air de Sémélé avec Violon obligé. C'est votre épouse, Katharina Wolf, qui joue. Myself, I Shall Adore, interprété par la soprano Danielle Denise. C'est David Stern qui dirige Opéra Foucault. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
I shall.